cette réunion encore sur Zoom et qui va bientôt changer pour la prochaine. Donc on continue dans la programmation autour du séminaire encore. Et aujourd'hui, nous avons nos deux collègues qui sont membres de l'association encore. Donc Sylvain Maubrin, qui est psychanalyste et qui est aussi dans l'organisation de ces séminaires avec Simone et moi-même. Et Vincent Clavurier, qui est aussi psychanalyste, un membre de l'association, et aussi qui participe du CA de notre association. Et aujourd'hui, ils vont nous parler de la situation de la jouissance inspirée par les avancées de Lacan sur ces séminaires. Juste une petite un petit avertissement avant de commencer. Juste demander à tout le monde qu'on pense bien à fermer les micros pour qu'on n'ait pas des bruits extérieurs qui viennent un petit peu gêner la présentation. Donc voilà, je passe donc la parole à Sylvain.
Oui, merci. Merci Cécilia. Bonjour à tous. Alors... En effet, on va essayer de parler un peu de la jouissance. Je dois dire je pense que je vais avoir un propos un peu balbutiant. Ça n'a pas été facile. Disons, oui, pas très évident d'articuler un propos qui se tienne véritablement. Donc, ouais, ça va être assez balbutiant, mais voilà, je vais poser quelques petites choses. Possible que ça ne dure pas très longtemps, voilà. En tout cas, mon propos et mon intérêt s'originent au départ d'un embarras. C'est toujours plutôt de cela que ça part en général pour moi. Un embarras quant à l'usage, aux usages de ce terme de jouissance, tant dans ma réflexion au compte de ma pratique. Que dans celui qui peut se faire entendre d'usage chez les analystes. En tout cas, ce que je suppose modestement d'entendre de leur usage de ce terme de jouissance. Car, et c'est peut-être cela d'ailleurs qui ne permet pas de la penser vraiment comme un concept, la jouissance recouvre des significations, des paradigmes, qui sont bien loin d'être univoques et unifiés. D'ailleurs, il ne s'agit pas forcément d'en faire la synthèse. Et l'embarras est pour moi d'autant plus conséquent que l'usage de ce terme de jouissance a, selon le sens qu'il prend, des implications dans la pratique de l'analyste, c'est-à-dire qu'il détermine pour une part, donc la jouissance est à ce titre un repère, et je vais essayer de préciser comment, avec le séminaire encore, ce repérage, la situation de la jouissance, cet appareil, comme le dit Lacan dans ce séminaire, implique davantage de se référer au par-l'être plutôt qu'au sujet. Alors, il y a un autre bord à ma question sur la jouissance et sur la manière de la situer dans la pratique de l'analyste. Cet autre bord concerne ce qu'il en est pour la psychanalyse de la subversion qui fonde son discours. Qu'est-elle devenue, cette subversion, pour les analystes eux-mêmes? C'est en tout cas une question qui peut me venir à partir de ce que je peux entendre des usages quelquefois de la jouissance. Alors, il est vrai qu'en plus, cette question n'est pas sans émaner de ce qui a déjà pu se dire et se travailler au cours des séances précédentes du séminaire de l'association encore. Notamment, par exemple, par rapport à des questions qui font très largement parler, mais dont on a pu un petit peu... traité dans les séances précédentes du séminaire, comme la question transidentitaire, transgenre. Alors, on n'en a pas parlé, mais toutes ces questions du GPA, PMA, le mariage de deux personnes de même sexe. Donc, remarquons au passage que ces questions posent toutes celles d'un acte, qu'elles passent toutes par un acte, et que c'est à cet endroit, cet endroit-là de l'acte que la psychanalyse se confond probablement à son discours. Ces questions posent aussi, et encore, semble-t-il, la question de l'acte sexuel et du rapport sexuel qui demeure, à mon sens, de n'être pas inscriptible, de manquer d'insignifiant pour le représenter, puisqu'il n'y a pas complémentarité des jouissances avec le ou la partenaire. La question demeure donc. Alors comment maintenir donc cette subversion qui caractérise le discours de la psychanalyse et qui s'acte dans la cure, notamment à l'égard de ces questions pour lesquelles il me semble qu'un certain usage du terme de jouissance est bien loin de produire cette subversion. Pourtant, il ne s'agit pas de perdre ce terme de jouissance et de perdre le repère qu'il peut constituer. L'emploi qui me questionne particulièrement, et qui donc a un peu originé aussi ma réflexion, c'est celui qui confine la jouissance à sa perspective économique. Alors, cette perspective économique de la jouissance, on pourrait la rapprocher de la jouissance du symptôme. Freudienne, hein ? La répétition que figure le symptôme emporte avec elle un quantum de jouissance en excès, un trop de jouissance. Et ce point-là n'est pas sans s'envisager comme un écueil subjectif dont la cure aurait à réduire la proportion. On entend ainsi parfois cette idée de faire limite à la jouissance. Alors, c'est un peu simple, dit comme ça, c'est un peu à l'emporte-pièce que je dis ça, mais cette idée d'un rapport d'exclusion, je dirais, entre désir et jouissance, véhicule avec elle une idée de l'analyse, de la cure, où il s'agirait d'abaisser la jouissance comme condition d'accès au désir, comme condition d'accès au désir, dans le dire, bien que celui-ci reste inarticulable, car le désir est effet de parole. Donc cette conception recèle pour moi cet embarras de rendre la parole résolutive, solutionnante, pourrait-on dire, et cela vient poser la jouissance comme, d'une certaine manière, une résistance à la parole, me semble-t-il. Voilà, c'est donc cette idée-là de la jouissance du symptôme qui me paraît justement être reprise autrement dans le séminaire encore. C'est-à-dire que la jouissance acquiert un autre statut, si je puis dire, ou en tout cas un autre tour, on va dire, dans l'enseignement de Lacan. Pour revenir quand même, la jouissance dans cette conception de jouissance-symptôme ne révélerait-elle pas une fonction normalisante de la cure, régulatrice de la jouissance, et qui rabattrait finalement le travail de la cure sur un idéal d'épurement de cette jouissance au profit du désir? Cette idée me semble questionner l'éthique de notre pratique, et il me semble d'ailleurs que l'idée d'un bien, que l'analyse conduise vers un bien, est contiguë à cette question de la jouissance du symptôme et suggère, à mon sens, plutôt une psychologie du moi. Alors, un peu pour, je ne sais pas si c'est pour exemplifier, mais ce qui m'est venu à cet égard-là, puisque je parle de conduite de la cure, en tout cas de ce qui conduit la cure, je suis revenu au texte de Freud, au texte de Lacan, pardon, La direction de la cure, le texte de 58 qui se trouve dans les écrits, par rapport à un cas dont parle Lacan dans ce texte. Il en parle par rapport à la question de l'acting out, mais il me semblait que ce cas pouvait être intéressant justement à l'égard de la jouissance et à l'égard de, on va dire, la pratique de l'analyste ou la direction que l'on peut donner à la cure, mais en même temps la direction que ça prend, si je puis dire, parce que justement il y a tout ce jeu chez Lacan où finalement c'est pas l'analyste en position de potentat qui viendrait comme ça diriger la cure, mais c'est autre chose qui la dirige, qui lui donne une orientation. Donc ce cas de Lacan, ce cas dont discute Lacan dans le texte La direction de la cure, c'est le cas dit de l'homme aux cervelles fraîches. Comme je disais tout à l'heure, il en parle surtout par rapport à la question de l'acting out. Et puis il faut reconnaître que de ce cas, il en parle à plusieurs reprises dans son enseignement. Il n'y a pas que dans la direction de la cure. Il en parle, je crois, dans l'angoisse et il me semble également dans d'un autre à l'autre. Mais je vais m'attacher plus particulièrement à ce qu'il en dit dans la direction de la cure par rapport à la jouissance. Alors, pour rappel, il s'agit donc du cas de Ernst Kriss. Ernst Kriss qui écrit un article sur ce patient. C'est un article qu'il écrit en anglais et qui est traduit en français. Le titre, c'est « Psychologie du moi et interprétation dans la thérapie psychanalytique ». Donc, ce cas, c'est un homme qui se pense plagiaire. Vous vous souvenez peut-être de ce cas. Il souffre d'être en proie à une impulsion à plagier. Et le pendant de cela, c'est qu'il présente une inhibition de fait à publier ses recherches. Du fait d'avoir l'impression que tout ce qu'il va écrire sera du plagiat, il se retrouve inhibé à écrire et à publier. Donc c'est pour ça qu'il vient voir Kriss, et comme le dit Lacan, tel est le drame subjectif de ce patient, de cet homme. Alors comment va faire Kriss? En tout cas, que va dire Kriss et comment Lacan le reprend? Donc la démarche de l'analyse de Kriss, et ça il l'explique dans son texte « Psychologie du moi », sa démarche, c'est de livrer au patient, à son analysé, la raison de cette inhibition. Et pour cela, Kriss entreprend de juger lui-même cette question du plagiaire en lisant les travaux de ce patient, pour évaluer, pour juger donc si ces travaux sont vraiment du registre du plagiat. Alors, une fois que Kriss s'est bien assuré que son patient n'était pas plagiaire, cela lui permet de livrer à ce patient, de lui livrer une construction, d'une certaine manière, en tout cas de lui dire que son symptôme de se penser plagiaire a pour fonction, en fait, de l'empêcher de l'être. Alors, voilà. Et c'est là que Lacan amène quelque chose que je trouve justement très intéressant par rapport à la pulsion, à la jouissance, pardon, par rapport à la jouissance et par rapport finalement au fait de ne pas faire de la jouissance quelque chose qui aurait comme ça à réduire. Un petit peu comme Kriss souhaite réduire le symptôme de son patient. Lacan dit ça comme ça. Donc c'est page 599 des écrits aux éditions du Seuil. Il dit de l'intervention de Kriss qu'elle peut être présumée erronée par le seul fait qu'elle suppose que défense et pulsion sont concentriques, et pour ainsi dire, l'une sur l'autre moulée. Ce que veut dire, donc, à cet endroit-là, Lacan, me semble-t-il, c'est que Kriss analyse la défense plutôt que la pulsion. Et il me semble que ça peut tout à fait nous renseigner sur ce qu'il en est, peut-être d'une analyse de la jouissance du symptôme par rapport à, prendre en compte le statut de la jouissance tel que, dans le séminaire encore, Lacan l'articule, c'est-à-dire assez autrement. Alors, par rapport justement à cette question de la pulsion, pour poursuivre, par rapport au cas de l'homme aux cervelles fraîches, ce qu'il faut savoir, c'est que donc quand Chris lui livre cette interprétation, que finalement, s'il a peur d'être plagiaire, c'est pour s'empêcher de l'être, ce que répond le patient et qui signe donc l'acting out, c'est dans un mouvement associatif, hein, le patient dit que c'est assez intéressant. Alors, attendez, je retrouve. Voilà. Là, je prends plutôt chez Lacan. Donc, le patient, une fois que Chris lui a livré son interprétation, il explique qu'après chaque séance, au sortir de la séance, il rôde dans une rue qui cumule les petits restaurants attrayants pour y lorgner sur les menus, l'annonce de son plat favori, des cervelles fraîches. Alors c'est vrai que c'est intéressant aussi de voir que dans le séminaire L'Angoisse, Lacan ne dit pas précisément ce qui se passe, c'est-à-dire que il dit pas que le patient va lorgner sur le menu l'annonce de son plat favori, mais qu'il va les manger, les cervelles fraîches. En tout cas, dans la direction de la cure, il s'en tient à ce que dit Chris, à savoir que le patient lui dit qu'après l'interprétation livrée, donc il lui explique qu'au sortir de chaque séance, il va lorgner les menus où il y a écrit « cervelle fraîche ». Et ce qui permet à Lacan, on va dire, de poser là du coup une interprétation dans le registre de la pulsion et de dire de ce patient que finalement, il ne s'agit pas de la défense d'être plagiaire, c'est-à-dire de la défense de vouloir l'être, mais plutôt qu'il s'agit d'une anorexie mentale. C'est-à-dire que plutôt que, là je cite Lacan s'adresse à Chris et lui dit « Ce n'est pas que votre patient ne vole pas qui ici importe, c'est qu'il ne, trois petits points, pas de nœud, c'est qu'il vole rien. » Et c'est cela qu'il eût fallu lui faire entendre. Je poursuis dans la citation. Donc, il parle de l'anorexie. Il dit que ce patient souffre d'une anorexie mentale. Anorexie, dans ce cas, quant au mental, quant au désir dont vit l'idée, et ceci nous mène au scorbut qui règne sur le radeau où je l'embarque avec les vierges maigres. Bon, la fin de la citation n'a pas trop d'importance, mais pour pointer cette dimension d'interprétation dans le registre de la pulsion, et qui me paraît toucher précisément à la jouissance, non pas pour la limiter, mais pour la situer. Alors, d'une certaine manière, cette question d'analyser la défense avant la pulsion me paraît recouvrir ce qu'il peut en être de la place que l'on repère pour la jouissance et comment elle indique donc quelque chose de la direction de la cure. Et il me semble qu'avec le séminaire encore, on s'éloigne précisément de cette jouissance du symptôme. Je poursuis. Donc la notion de jouissance est donc centrale dans le séminaire encore. Elle trouve un certain aboutissement dans la formalisation du non-rapport sexuel par les formules dites de la sexuation. En effet, dans le séminaire encore, Lacan dégage du non-rapport sexuel l'écart entre la jouissance côté masculin, la jouissance phallique, de celle qui, de n'être pas toute phallique, est qualifiée de jouissance autre de l'autre. Opération d'écriture donc, avec ces formules, d'un rapport précisément inscriptible, ce dégagement de l'autre jouissance à partir de la jouissance de l'un se rapporte à ce que le signifiant, ce un, insignifiant, ne saurait représenter ce rapport entre les sexes. Si l'interrogation de Lacan se porte pour une grande part sur ce qui échappe à la jouissance vraie, celle qui n'est pas toute, l'enseignement du séminaire encore réside à mon sens également dans les implications logiques à l'égard de la jouissance et dans l'ouverture, le tour qu'il lui confère. Ce tour, c'est que la jouissance, elle est appareillée au langage, elle en est la texture même. C'est là ce qui me semble opérer une avancée sensible avec le séminaire encore, de situer la jouissance pour l'être parlant. Alors je voudrais faire remarquer à ce titre que cette notion d'être parlant apparaît justement dans le séminaire encore. Ce qui est assez intéressant, c'est que ça n'est pas encore la notion de par-l'être, parce que le par-l'être, c'est quelque chose que Lacan introduit plus tard dans la seconde conférence, avec Joyce, en 79, je crois. Mais donc il n'y a pas le par-l'être, il n'y a pas la référence directe au par-l'être dans le séminaire encore, mais à plusieurs reprises, Lacan parle de l'être parlant. Et il me semble que c'est un point extrêmement important par rapport à la notion de sujet. C'est-à-dire, qu'est-ce que le sujet, finalement, ne permet pas de toucher d'une certaine jouissance à l'égard du langage, que cet être parlant, qui revient donc à plusieurs reprises dans le séminaire encore, vient peut-être un peu éclairer ou davantage approcher. Alors, je vais citer pour ça quelque chose que dit Lacan dans le séminaire encore. Comme je le disais, la jouissance dans le séminaire encore, elle se caractérise d'être appareillage au langage, d'en être la texture même. Plus précisément, il dit, alors c'est dans la leçon du 13 février, moi j'ai me suis référé à, enfin j'utilise l'édition du Seuil en poche, donc je peux pas vous donner la référence au Seuil, voilà. Mais en poche, en tout cas, c'est dans tous les cas, c'est dans la leçon du 13 février. Il dit: la réalité est abordée avec les appareils de la jouissance. Voilà encore une formule que je vous propose. Si tant est que nous nous centrions bien sur ceci que l'appareil, il n'y en a pas d'autre que le langage. C'est comme ça que, chez l'être parlant, la jouissance est appareillée. Et un peu plus loin, Lacan ajoute, je pousse un peu plus loin au point où maintenant ça peut se faire, en disant que l'inconscient est structuré comme un langage. À partir de là, ce langage s'éclaire sans doute de se poser comme appareil de jouissance, de la jouissance. Mais inversement peut-être, la jouissance montre-t-elle qu'en elle-même, elle est en défaut. C'est page 52, donc, aux éditions, merci Vincent, du Seuil. Donc, il est notable en effet que dans le séminaire encore, au sujet de l'inconscient, celui qui est l'effet de la chaîne signifiante, qui est représenté par un signifiant pour un autre, s'ajoute l'être parlant, comme dans la citation. Cela tient précisément au fait que la jouissance, telle que Lacan la situe dans la texture du langage, dépasse ce sujet de l'inconscient. Lacan le dit dans la leçon du 13 janvier. Il rappelle ce qu'est le sujet, celui du signifiant, pour ajouter, je cite, « un sujet comme tel n'a pas grand-chose à faire avec la jouissance ». Et il en déduit que l'amour vise le sujet et que l'amour est ce qui vient précisément à la place de la jouissance. Tandis que la jouissance, comme appareil, il la situe davantage du côté de la langue en un mot, et que la langue est précisément cette texture, source de la jouissance pour l'être, Alors, on sait que l'être, en plus, est un terme qui est relativement discuté par Lacan. Donc, finalement, plutôt que du manque à être, du sujet manque à être, on passe avec le séminaire au sujet, on pourrait dire, manque à jouir. En tout cas, c'est une proposition. Je dois dire que dans mon balbutiement, je m'arrêterai peut-être même là. Disons que ce que ça m'a fait un peu réfléchir et finalement, ce que j'essaye un peu d'articuler là, c'est qu'il n'y aurait pas d'action sur la jouissance dans la cure analytique directement, mais que c'est à suivre la dimension pulsionnelle, au titre que cette pulsionnelle, c'est précisément l'écho dans le corps du fait qu'il y a du dire, donc à suivre cette texture pulsionnelle, on va dire imprégnée de la langue, que quelque chose dans l'analyse pourrait avoir un effet sur la jouissance au titre d'une autre formulation pulsionnelle. Et là, ça supposerait peut-être de réfléchir un petit peu aux trois temps pulsionnels, actif, passif et celui qu'on appelle réflexif. Voilà. Donc, comme je vous dis, c'est un peu balbutiant, pas très ordonné ce que je vous dis là, mais c'est les quelques points que je souhaitais aborder et volontiers discuter avec vous. Voilà. Je te laisse là. Merci
beaucoup. Est-ce que je continue?
Tu peux.
Oui. Bon, je prends la suite. Vous entendez bien? Oui. Alors voilà, donc moi, je vais vous proposer un parcours qui va être plus de l'ordre d'une promenade que d'un exposé de thèse bien abouti. C'est plutôt une promenade de entre différentes lectures. Alors j'ai trouvé un titre quand même que je vous propose, qui est « Le bien et l'ennemi du mieux ».« Le bien et l'ennemi du mieux ». J'en parlerai un peu plus tout à l'heure. Alors, au long de cette promenade, qui est issue de la lecture du séminaire, les termes qu'on rencontre sont des termes qui, pour moi, restent assez, dansants, assez mouvants et qui dansent entre eux sans forcément que j'arrive bien à fixer leur sens. Donc voilà, c'est selon les termes qu'on rencontre comme des jalons dans le parcours, donc désir, jouissance, plaisir et déplaisir, douleur, masochisme, satisfaction, pulsion, des termes qu'on a pu entendre pour certains dans l'exposé de Sylvain. Donc je commencerai tout d'abord par la première leçon de Lacan, et dès la première séance, Lacan nous parle de jouissance, et j'aimerais prendre son texte comme il le disait lui-même, c'est-à-dire que c'est un texte d'analysant. Il parlait en séminaire en tant qu'analysant, quoi. Et je pense que c'est une question d'analysant qu'il nous amène, d'analysant au sens de sa vie analysante, de ce qui le préoccupe, de ce qu'il travaille, de ce qu'il met au travail. Et sa question, c'est la suivante. Alors elle est sous forme assez rhétorique, mais c'est une question, je crois. La jouissance de l'autre, du corps de l'autre qui le symbolise, n'est pas le signe de l'amour. Et alors, il nous dit très explicitement, il dit de nous, ses auditeurs, mais donc aussi ses lecteurs, qu'il nous suppose au lit, quand il dit ça. Il nous suppose au lit, un lit de plein emploi, dit-il, à deux. Alors, pour être encore plus clair, si on n'a pas bien compris, il nous dit le plein emploi, le bon usage du lit, consiste en un s'étreindre. Donc, cette question de la jouissance, dès la première séance, est ici, disons, sexuelle, au sens de l'activité de deux ou plus de personnes au lit, dans un s'étreindre. Et puis l'extension de cette question de la jouissance va s'étendre, enfin, l'extension va devenir même galopante, disons, dans la suite de l'enseignement de Lacan, et peut-être même plus encore après Lacan, chez les Lacaniens, où on va parler donc à sa suite du champ de la jouissance, de clinique de la jouissance. Donc je reviendrai là-dessus. Mais si on revient un peu en arrière, et ça, du coup, ça résonne un peu avec ce que nous a présenté Sylvain, Je voudrais revenir un peu en arrière sur cette question de la distinction entre désir et jouissance, qui est au fond une thèse, on pourrait dire fondatrice, assez fondamentale, qui est devenue, voire quasiment une vulgate, enfin disons une opposition comme ça, qui peut s'enseigner, qui peut se transmettre du désir à distinguer de la jouissance. Alors on pourrait écrire cette thèse de la forme la minimale, jouissance, flèche, désir, c'est-à-dire il s'agit d'aller de la jouissance au désir via la castration finalement. Alors j'ai plusieurs exemples dans ces lectures, donc je vais vous en donner quelques-unes, par exemple dans Éthique du désir de l'école freudienne, dans l'introduction, plusieurs passages comme ça où on nous explique bien les choses. Voilà. Il faut que le sujet de l'inconscient ait émergé, sujet sous-jacent aux chaînes signifiantes et marquées de la castration, c'est-à-dire qu'il y ait sujet du désir. C'est-à-dire pour qu'il y ait sujet, avant de se poser la question des désirs et de leur satisfaction possible, encore faut-il qu'il y ait désir et non jouissance ou volonté de jouissance inconditionnelle et absolue. Le nouveau-né est dans la jouissance. Voilà, la réelle attitude éthique consiste à dépasser l'interdit pour assumer la castration, c'est-à-dire à se confronter à la loi du désir, telle qu'elle s'inscrit dans la parole. Alors, dans ce, il y a d'autres exemples, je parlerai tout à l'heure, enfin, je citerai tout à l'heure Safouin, mais il y a une belle page que je voulais vous lire de Jean-Pierre Clairaut, dans un livre d'éthique, de calcul moral, comment raisonner éthique, où il va parler du désir. Et justement, il explique bien cette thèse, je trouve, enfin, il la porte à un certain point. Alors, il ne s'agit pas tellement d'y objecter, mais de voir que c'est une façon, c'est une direction, mais qu'il y a peut-être d'autres directions à prendre. Alors, je vais vous lire le passage. Jean-Pierre Clairaut. Alors, Lacan a d'abord utilisé le mot de culpabilité contre l'utilitarisme, quand il reconnaît au début du livre 7 du séminaire que les hommes ne recherchent pas particulièrement le plaisir ou le bonheur. Puis il l'a revendiqué comme un critère ou une condition d'expertise. Qu'as-tu fait de ton désir? Chacun doit pouvoir affronter cette question, etc. Le désir est sans doute une espèce d'être par son insistance et son inscription singulière, mais il n'est pas simplement, puisqu'on se doit à son désir, et qu'il faut être au point où l'on serait tenté de fuir et de s'en laisser divertir, pour reprendre le terme à Pascal. Que veut-on fuir? Qui veut fuir? Qui est sollicité? Qui doit être là? Ce sont peut-être les questions qui suscitent un sujet un peu plus vrai que les vaines chimères de la personne. Pourvu qu'on n'entende pas par sujet quelques mois profonds qui subsisteraient par devers nous et qu'il faudrait susciter par je ne sais quelle réminiscence. Et là, j'insiste sur la phrase qui vient. Le désir est essentiellement exigence d'œuvre, jamais aboutie. Donc c'est le désir du côté de l'œuvre, du travail, de l'effort, de la sublimation, on pourrait dire. Le désir est essentiellement exigence d'œuvre, jamais aboutie, et par là, devoir, paradoxale vigilance à quelque chose qui n'est pas encore, qui ne sera jamais définitivement, sauf par la coupure de la mort, et qui a pourtant toujours déjà l'inaltérabilité d'un destin, etc. La restauration par Lacan d'une éthique de la culpabilité, par-delà sa réversion par l'éthique utilitariste, vient de la certitude que ce sont non pas ultimement les plaisirs et les douleurs que l'on pèse sur la balance éthique, mais des désirs qui ne se traduisent que très indirectement en plaisir et douleur, lesquels ne sont que leurs traces fugitives. Donc les désirs ne se traduisent que très indirectement en plaisir et douleur, lesquels ne sont que leurs traces fugitives. On ne saurait trop donner raison à Lacan sur ce point et corriger l'utilitarisme d'un insupportable hédonisme. Voilà, et là il fait un passage sur le fait que la fameuse machine à plaisir qui nous donnerait du plaisir tout le temps, qui nous dispenserait toute action, nous n'en voulons pas en fait. Nous tenons à nos déplaisirs. S'il peut faire plaisir de satisfaire un désir, on peut poursuivre celui-ci bien au-delà du plaisir et sans se laisser arrêter par la douleur. Etc. Alors, dans Mustapha Soifran également donne une présentation un peu de cette thèse, donc qui est, alors je cite Soifran, dans Dans la psychanalyse, science, thérapie et cause. Donc, il rappelle que la fonction phallique dont on a parlé tout à l'heure réside dans la passation d'un manque. Voilà. Et que Freud avait voulu construire sa conception du psychisme dans les limites de l'hédonisme. Donc ça, ce serait le principe de plaisir. Puis sentit qu'il fallait aller au-delà. Car la mise en œuvre de l'objet de la pulsion, c'est-à-dire de l'objet cause du désir, fait flamber la libido d'une énergie qui outrepasse de telles limites. Et ça fond un cri. Or là encore, on peut dire que la psychanalyse s'est réinventée avec Lacan, qui a introduit une clarification capitale dans son séminaire sur l'éthique en proposant le concept de jouissance. Voilà. Donc le concept de jouissance est une clarification capitale, nous dit Safouin, dans l'éthique. Mais alors la question c'est, est-ce que cette clarification n'est-elle pas devenue trop claire? N'est-elle pas devenue pour nous aujourd'hui trop tranchée, trop didactique, cette opposition entre désir et jouissance? Car, alors, déjà Safouin nous dit que le désir tend vers la jouissance. Car le langage crée un manque à être, c'est ce que Lacan appelle le désir, lequel tend non pas vers le plaisir que procurent les biens, mais vers la jouissance d'un bien au-delà des biens, et ce bien suprême n'a pas d'équivalent négatif, qui serait l'au-delà du mal, puisqu'il est le mal même. Vous voyez, il introduit la question du bien et du mal, en identifiant que le désir tend non pas vers le plaisir, mais vers la jouissance, qui elle-même vise le mal. Donc c'est une formule brève, mais qui dit quand même quelque chose. Alors, la question à cette thèse, il ne s'agit pas tellement d'y objecter, parce qu'elle me semble, c'est pas vraiment une objection, mais c'est plutôt de suivre un autre, de faire une embardée, et de suivre notamment, par exemple, je pense que c'est ce qu'a essayé Jean Alouche de faire dans le Sexe du Maître, qui est un livre quand même qui n'est pas d'hier, hein, qui est de 2001, donc qui a 20 ans maintenant. On pourrait dire c'est l'objection érotologique, si on veut, à cette vulgate, à cette thèse désir flèche jouissance. Voilà, il le dit quasiment mot pour mot. Une constante a été maintenue par Lacan tout au long de ce fil, à savoir l'orientation de l'opération division, qui, partant du sujet de la jouissance, devait déboucher sur un sujet transformé, nommément le sujet du désir. Alors déjà, il parle de sujet de la jouissance, ce qui est un terme qui a été utilisé par Lacan, mais qui est souvent... qui renvoie chez certains auteurs plutôt à la perversion. Mais voilà, Alouche l'utilise. Donc il parle de cette thèse-là, de jouissance, flèche, désir. Or, voilà ce que dit Alouche. Prise formellement, cette orientation pose la question naïve suivante. Pourquoi pas l'inverse? Pourquoi ne pas se demander, à l'inverse, comment le sujet accède à la jouissance? Voir comment il pourrait inventer de nouveaux modes de jouissance sexuelle. Foucault formula cette question. Il récusait ainsi explicitement la focalisation de la psychanalyse sur le désir, pour lui opposer, pour mettre à cette place valorisée, le plaisir et ses jeux. Donc il y a une... Alouche utilise ici Foucault pour réintroduire la question du plaisir, et de l'accession à la jouissance sexuelle. Voilà, donc là, Alouche ensuite décrit un peu la thèse disons, d'une certaine psychanalyse qui dirait qu'au fond, on n'envisage que le vecteur jouissance-flèche-désir, et sur la question de désir-flèche-jouissance, de comment ensuite accéder aux jouissances, la psychanalyse, finalement, n'a rien à en dire. Ne fait pas plus que son travail, c'est-à-dire qu'une fois qu'elle a déblayé le terrain, s'est ouvert au sujet, sa voie au désir, c'est pas à elle de déterminer le reste, comment, désirant, il va accéder à la jouissance. Elle s'abstiendrait, la psychanalyse, dans l'érotique, comme elle s'abstient dans l'éthique. Donc c'est cette question de l'érotique, au sens de la pratique érotique, qui est laissée pour compte d'une certaine façon. Et Alouche va dénoncer, disons un peu à la suite de Foucault, la pastorale analytique. C'est un peu, je pense, que ça rejoint un peu ce que nous disait Sylvain tout à l'heure, quand cette thèse, qui encore une fois, a tout son intérêt, jouissance, flèche, désir, vire à la pastorale. Voilà. Alors... La piste que je suis à louche, c'est de suivre la question d'une investigation de l'érotisme contemporain, des pratiques érotiques contemporaines. Bon, enfin, je ne vais pas tellement en parler, mais c'est un fil intéressant. Au fond, la question qui se pose, c'est la question, comme va le dire très explicitement Alouche, de l'acte sexuel, de la baise, quoi, si vous voulez. Qu'est-ce qu'on en fait de cette question ? Est-ce qu'on se contente un peu de dévaloriser, comme ce qu'on peut le dire parfois, c'est-à-dire oh, c'est de la sexologie, ou bien est-ce que il y a quelque chose à en dire du côté de la psychanalyse ? Et d'une certaine façon, alors ça rejoint un peu la question peut-être du pulsionnel que tu pointais, mais ce qu'il va aussi défendre un peu plus loin, Alouche, c'est l'idée d'une intensification du plaisir. C'est-à-dire ça, c'est la thèse de ça, c'est ce que vise Foucault, mais Alouche va d'une certaine façon brancher la psychanalyse là-dessus. À savoir que, selon lui, l'activité analytique aurait aussi à voir avec cette intensification dite du plaisir. Alors, s'agit-il d'une jouissance ? La différence plaisir-jouissance, en général, elle est traitée de la façon assez simple, disons plutôt freudienne, enfin qui part de Freud, considérer que le plaisir est du côté de l'abaissement de l'excitation, de l'abaissement de l'attention, et que la jouissance serait du côté, au contraire, du maintien de l'attention. On pourrait presque dire du plaisir pris à l'attention. Voilà, et donc Alouche, ensuite, va suivre Foucault, qui dit « Nous devons créer des plaisirs nouveaux ». Alors, voilà. Depuis, je cite là Foucault. Depuis des siècles, les gens en général, mais aussi les médecins, les psychiatres et même les mouvements de libération, ont toujours parlé de désir, et jamais de plaisir. Nous devons libérer notre désir, disent-ils. Non, nous devons créer des plaisirs nouveaux. Alors peut-être le désir suivra-t-il. Vous voyez, c'est vraiment une question prise de l'autre sens. C'est-à-dire, est-ce qu'il y a un effet mutatif du plaisir, d'un plaisir nouveau ? Et ça rejoint, je crois, la question pulsionnelle, et du circuit pulsionnel, et des effets mutatifs de subjectivation qui peuvent survenir quand il y a des mouvements et des changements dans cette boucle-là pulsionnelle. Voilà. Alors, soit dit en passant, le sexe du maître, c'est quand même intéressant parce que Alouche nous rappelle que le sexe du maître, il est assis dessus, hein, c'est pas le phallus, c'est l'anus. Donc ça, c'est un point qui n'est pas négligeable et qui est peut-être un peu oublié parfois. Ce qu'il arrive aussi la question à laquelle il parvient, c'est la question de la jouissance masochiste. C'est-à-dire la jouissance, est-ce au fond un autre nom du masochisme ? Puisque, alors il y a toute une articulation, une argumentation sur la répétition qui occasionne une déperdition de jouissance. Donc du coup, est-ce que ce serait déjà par nature masochiste ? Et puis, le fait que la jouissance se produit, alors il faut que je retrouve quand même une formule bien, bien exacte. Voilà, la jouissance peut se réaliser pour ce qu'elle est, à savoir masochiste, puisque la répétition en acte implique une déperdition de jouissance. Et surtout, donc c'est même le titre d'un chapitre, hein, masochiste, virgule, la jouissance, point d'interrogation. La jouissance est-elle fondamentalement masochiste ? Alors, là, il va s'appuyer... il y a un passage assez complexe sur la version lacanienne de la jouissance comme masochiste. Donc, le symptôme, depuis Freud, est un nœud de jouissance symboliquement constitué. Le sujet de la jouissance, il reprend encore cette formulation, le sujet de la jouissance est donc inscrit au lieu du symptôme, à savoir le grand autre. Bon, etc. Toute la question de la subjectification de ce qui est déjà sujet, toute l'affaire de la division du sujet, sera alors celle de la constitution du sujet désirant aux dépens du sujet de la jouissance. Ce qui rejoint ce que je vous disais tout à l'heure. Il utilise le terme subjectification, qu'on voit peu, je ne sais même pas si je l'ai déjà croisé, qui n'est pas subjectivation. Donc subjectification, donc ça pourrait être constitution d'un sujet, sujet désirant, au dépens du sujet de la jouissance. Donc là, c'est la thèse de tout à l'heure. Et donc là, l'argument pour qualifier la jouissance de masochisme, c'est de dire qu'elle est, elle vise, donc, dans un effort de retrouvailles, elle ne peut être reconnue que par l'effet de la marque. Et cette marque, je vous cite, donc là je cite Lacan, cette marque même y introduit la flétrissure, d'où résulte la perte. Donc c'est le fait d'être marqué, de viser donc la répétition par la marque, la marque introduit la flétrissure, et donc le raisonnement est de dire que du coup la jouissance est masochiste. La jouissance ruineuse. On retrouve tous ces termes-là. Jouissance ruineuse, jouissance mortifère. C'est souvent de ce côté-là que la jouissance est située. Voilà. Donc, par rapport à la question du masochisme et de la jouissance, j'en viens maintenant à l'autre lecture, qui est celle d'un livre de Darian Lieder, que je connaissais pas, que Sylvain m'a conseillé, et je le remercie, qui a fait un ouvrage féroce de lacanien, donc il est anglais, Darian Lieder, et il est très très érudit, non seulement du lacanisme, disons, je pense qu'il a été formé par Miller, enfin, et puis par d'autres sans doute, mais enfin c'est je pense que c'est plutôt il doit être passé par la cause freudienne au départ. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il est aussi très savant des post-freudiens non lacaniens. Il a beaucoup lu, et je trouve que c'est vraiment un manque que j'ai et qu'on rencontre souvent, c'est de ne pas être assez au courant de la littérature, disons, non lacanienne. Et Darian Lieder nous fait bénéficier de cette culture-là. Donc il a écrit un livre qui s'appelle « La jouissance vraiment », où il va au fond critiquer l'usage de cette notion par les lacaniens. Et ce qu'il critique, c'est que le terme est devenu beaucoup trop extensif, a perdu son caractère, disons, opératoire, et est essentiellement descriptif, n'a plus de force explicative, quoi. Alors c'est vrai que quand on fait la liste des jouissances, il en fait une liste. Le terme utilisé par Lacan, donc là je peux vous le lire. Jouissance de l'image du corps, jouissance phallique, jouissance de l'autre, génitif subjectif, jouissance de l'autre, génitif objectif, plus de jouir, jouissance du sens, jouissance d'être, jouissance de la vie, jouissance du corps. On a toute une série comme ça. Bon, au bout d'un moment, en tout cas moi je ne sais plus très bien, je suis assez perplexe, quoi, je ne sais plus très bien... comment penser tous ces termes. Et la jouissance, d'ailleurs, nous a un peu perdus. Je crois qu'avec Sylvain, on a un peu souffert pour préparer cet après-midi, parce qu'on s'y perd, quoi. On s'y perd complètement au bout d'un moment. Voilà. Donc, Darian Lieder revient sur cette question de la jouissance, et notamment, il parle de... chez Freud, déjà, qui fait référence, au fond... Alors oui, non, je vais juste introduire quand même une remarque. Pour ma part, ce qui me gêne un peu avec ce signifiant de jouissance, ce terme, ce qui m'était venu, c'est que c'est devenu un signifiant hydroalcoolique, c'est-à-dire qui permet de se laver les mains. C'est-à-dire que, cliniquement, au fond, on se dit, oh, c'est la jouissance, ah, ce patient-là, c'est sa jouissance. C'est sa jouissance qui fait que ça s'est mal passé, que ça s'est mal terminé, qu'il y a quelque chose qui cloche, quelque chose qui coince. C'est sa jouissance. Et au fond, c'est un peu un signifiant terminus, quoi. qu'est-ce que ça en dit, on s'arrête là. Donc ce qui est intéressant, c'est que Darren Eder, il nous permet de penser un peu plus loin, qu'habituellement. Donc il nous rappelle que déjà chez Freud, Freud notait, parlait du mode de satisfaction du symptôme, donc là je cite Freud, le mode de satisfaction que le symptôme apporte est de bien des manières très étrange. Il parlait de l'horreur d'une jouissance par lui-même ignorée chez l'homme aura aussi. Et donc, Darren Eder va essayer d'aller un peu plus loin que l'usage du terme de jouissance qui au fond n'explique pas grand-chose en ce qui concerne notamment cette question que rencontraient tous les analystes, y compris non lacaniens, de la satisfaction dans la souffrance, du plaisir dans la douleur. Voilà. Et donc, il nous propose des lectures vraiment très intéressantes d'auteurs que je connaissais pas du tout. Alors, il y a quoi, par exemple? Par exemple, Karine Stephen, qui est la belle-sœur de Virginia Woolf et analysante de James Glover et de Sylvia Plath. Alors, elle va expliquer que le fait que le corps affamé de stimulation sensorielle ne rencontre que déception continuelle. Donc le fait que les déceptions soient continuelles instaure un état d'inquiétude, vite vécu comme de la peur et conduisant à une réaction de rage. Or, selon elle, les frustrations transforment les zones de plaisir du corps en... et leur stimulation peut faire aussi mal qu'un affront et être appréhendée comme un danger, tout en étant... que ça va et de la frustration qui vont... cette coalition va créer des sortes d'impulsions contradictoires. De cette manière, dit Stephen, agressivité, rage et souffrance se teintent elles-mêmes de sensualité ou de soif de plaisir. Des moments d'étouffement au sein, par exemple, peuvent déclencher une terreur et un désespoir qui deviennent partie intégrante de l'impulsion de faim, de sorte que l'on finit par être attiré et repoussé par la même chose. Le désir du téton, de même, se retrouve fusionné avec l'expérience de la déception et du refus, si bien que désir et haine s'enchevêtrent. Donc déjà, ça va, je trouve, un peu plus loin, quand même. La douleur et la haine, voilà, c'est ça, c'est cette idée que peur, terreur, rage, satisfaction sont mêlées dès le départ. La douleur et la haine sont sexualisées, liées aux fonctions vitales et aux zones du corps qui sont des sites d'échange avec l'autre. Alors là, il introduit l'autre. D'ailleurs, d'une manière assez interactionniste, si je peux dire, Darren Eder. Il critique beaucoup, donc il a une critique féroce, et c'est assez marrant d'ailleurs parfois les critiques qu'il fait aux autres. Mais des fois, on se demande un peu lui qu'est-ce qu'il soutient. Et disons qu'il a un usage de, je trouve, de l'autre. Qui est assez interactionniste. Enfin, c'est beaucoup l'interaction avec l'autre. Voilà. Et donc, la libido n'est pas clairement séparable du mélange létal décrit par Stephen. Et d'ailleurs, il retrouve que dans des textes de littérature latine, on usait effectivement du terme libido pour désigner les états de désir sexuel, mais aussi les états de rage. C'était la libido en latin. Donc c'est comme ça que Stephen explique la coalescence de la destructivité et du désir. Alors plus encore, ce qui va nous intéresser encore plus, enfin ce qui m'a intéressé encore plus, c'est que il introduit la jouissance dans un rapport à l'autre, au grand autre. Et notamment, alors où est-ce que c'est, voilà. Donc, le mot jouissance peut désigner donc les revendications de l'autre sur le sujet. Jouissance désignera l'hypothèque prise par l'autre sur le sujet, et dans le processus même, son abolition ou sa non-reconnaissance comme sujet. Jouissance désigne une relation d'objet dans laquelle la subjectivité de l'une des parties se trouve abolie. Et c'est là où, au fond, enfin moi, ce qui m'a semblé être la thèse principale et la plus intéressante, c'est que du coup, il y a une explication du masochisme moral, dont parlait Freud, en tant que tentative d'annuler son statut d'objet de l'autre. C'est-à-dire qu'au fond, c'est pour échapper à l'autre. Alors. Voilà. Les efforts produits par le sujet pour se soustraire au droit que l'autre s'arroge sur lui donnent souvent lieu à une forme d'annulation de soi, d'automutilation ou d'autodestruction. Ce que Freud appelait le masochisme moral ou les mystérieuses tendances masochistes du moi sont fréquemment une tentative d'annuler son propre statut d'objet de l'autre. Et à partir de là, le geste même de s'autodétruire peut être une aspiration à la vie et à la subjectivité. Donc déjà, ça nous déplace, ça nous fait entendre autrement ce que peut être le masochisme, ce que peut même être peut-être la réaction thérapeutique négative, enfin, toutes ces choses-là peuvent être entendues un peu autrement. C'est-à-dire comme une sorte d'acte de rébellion, si on peut dire, vis-à-vis de l'autre. Les refus de transfert, par exemple, des fois c'est difficile, ça, ça peut être quelque chose de cet ordre. Il va parler d'actes de séparation, de tentatives de séparation. Lacan avait déjà avancé qu'on pouvait considérer les rejets que le sujet névrosé cherche comme des tentatives pour éviter d'être englouti par l'autre. Une sorte de quête d'injustice, une quête de rejet, comme ça, pour échapper à l'autre, finalement. Et donc ça, ça pourrait aller jusqu'à cette question du plaisir dans la souffrance. Comment ?
Est-ce que tu as vite de finir cette
question ? Pas tout à fait, non. Ben après, je peux m'arrêter, hein. Mais j'ai pas fini. Voilà, et donc il peut dire par exemple, ces actes de séparation peuvent déployer un spectre qui va des formes les plus extrêmes pouvant conduire à la mort, par exemple il parle d'anorexie, etc., à quelque chose d'aussi quotidien que de jeter des jouets d'un landau. Bon voilà, donc c'est une autre façon de prendre la question du masochisme qui m'a semblé bien intéressante. Alors se pose aussi la question de la satisfaction. Je vais juste vous en dire. Donc là, il y a un livre qui est sorti de Pierre Bruno, Satisfaction et jouissance. Je vais juste en dire un tout petit mot. Mais c'est intéressant parce que c'est par rapport au mot encore. Voilà. Donc encore pourrait être le nom de la jouissance et assez pourrait être voilà, il dit ça. On pourrait émettre que assez serait le titre que Lacan aurait choisi s'il avait décidé de consacrer un séminaire à la satisfaction. Voilà. Satisfaction serait du côté de assez, enough, quoi. Ça suffit. Et encore, plutôt du côté de la jouissance. Donc assez, c'est le nom propre de la satisfaction. Je ne sais pas si vous vous souvenez, d'ailleurs, mais j'ai pas retrouvé la citation que encore, dans le séminaire encore, et ça je pense, je ne sais pas si les fondateurs de notre association l'avaient en tête, mais c'est le nom propre de la demande d'amour, il me semble.
C'est la faille de part.
Voilà, cette demande. Ça, voilà. Bon, donc là, Pierre Bruno nous parle du paradoxe de la satisfaction. Il n'y a pas de satisfaction sans jouissance. Donc la satisfaction ne va pas sans une jouissance, à laquelle pourtant, pour qu'il y ait satisfaction, la satisfaction doit faire arrêt. Cette articulation paradoxale entre jouissance et satisfaction. Un point qui m'avait aussi échappé, c'est qu'on parle d'accomplissement de désir dans le rêve, mais ça n'est pas accomplissement, ce n'est pas satisfaction. Il y a à penser peut-être une différence entre accomplissement, réalisation et satisfaction. Ce qui nous ramène aussi du côté du symptôme. Bon. Je suis un peu pressé par le temps, par mes collègues, donc je vais essayer d'avancer Je ne sais pas si je voulais en dire beaucoup d'autres. Toutes les sections de puissance, parallèles à cette section. Voilà, donc il y a des formules. Par contre, alors dans le livre de Pierre Bruno, alors là, c'est pareil, c'est des cours de 88, je crois. Donc, il est à, c'est vraiment la période millérienne, disons, de Pierre Bruno. Et donc, c'est très une approche très logicienne. Alors, ce qui est bien, c'est qu'il a l'honnêteté de le dire, que c'est son choix de d'être dans la question de la logique, d'amener les choses à leur... un peu à leur point de non-contradiction. Disons. Mais c'est un choix, peut-être, en tout cas, moi, qui n'est pas le mien, qui n'est pas ma manière de voir travailler. Voilà. Et donc, il arrive, par exemple, à cette histoire de dire qu'il n'y a que le bien-dire qui satisfasse. Alors, bien sûr, il reprend Lacan, hein, c'est pas... bien sûr, il y a toujours des citations de Lacan qui appuient ça. Mais, disons que on a perdu un peu la question érotologique de tout à l'heure, quoi. C'est rabattu sur un peu la sexologie, enfin, comme si c'était un peu... sont pas très intéressants, pas très importants. Moi, je pense que c'est important. Alors, pourquoi je vous proposais le bien et l'ennemi du mieux ? La formule, bien sûr, habituelle, c'est le mieux et l'ennemi du bien, au sens où il serait préjudiciable à notre satisfaction de chercher à l'accroître au-delà d'un certain point. Donc, c'est Voltaire, c'est une phrase de Voltaire, je ne savais pas, j'ai trouvé ça, dans un conte moral de 1772. Et d'ailleurs, il dit que c'est un sage italien qui dit ça. Donc, ça m'a fait penser à l'italien cultivé de Freud, là. Alors, moi, je propose de considérer l'inverse. Le bien est l'ennemi du mieux, au sens où c'est à s'enferrer dans la quête d'un bien. Donc, à remettre dans la série, là, que je disais tout à l'heure, des termes qui dansent un peu entre eux. C'est à s'enferrer dans la quête d'un bien ignoré du sujet qu'il se prive d'aller vers un mieux. Le symptôme à partir lié avec un bien qui s'ignore, qui peut être sous la forme d'un idéal, d'une identification mortifère ou d'une jouissance, que le sujet se refuse à perdre ou dont il cherche la retrouvaille. Et le mieux s'entendrait une amélioration symptôme de souffrance. Pierre Bruno utilise le terme allègement, d'ailleurs, à la fin de l'analyse. Allègement de la douleur d'exister. Et même, pourrait-on dire, un mieux jouir, une intensification de plaisir, celle dont parle Foucault ou Alouche. Mais c'est au prix de consentir à l'inconfort du désir. Et, alors je crois que la formule est de Freud, mais j'ai pas retrouvé, au courage de son fantasme, avoir le courage de son fantasme, qu'un certain mieux est obtenu. Les termes prennent donc une autre tournure, comme le signifiant non identique à lui-même. La cure, le trajet de l'expérience analytique fait résonner les signifiants qui deviennent altérés, même doublement. Ils sont entendus, les faire entendre les rend à l'autre, les replace dans l'autre d'où ils viennent, et de ce fait, ils reviennent vers le sujet différent. Ils prennent un autre sens, une autre portée. Pour finir, je me suis, en travaillant comme ça, j'ai été frappé par le paradoxe de l'analysant. Vous savez, il y a le paradoxe du menteur. Qui dit « je suis un menteur », etc. Bon. Paradoxe de l'analysant, au sens où l'analyse, en faisant ça, là, ce que je vous disais, le bien et l'ennemi du mieux, donc en allant vers ce mieux, qui est aussi une forme de... alors, on parle de la formule de ne pas céder sur son désir, etc. Ça produit du maître, d'une certaine façon. Il y a quelque chose du maître qui émerge, d'en faire selon son désir, d'en faire selon ce qui convient à cet analysant. Et en même temps, c'est un maître qui est un maître dans le désir, quoi. Un maître, disons, soumis au désir, un maître marqué par le désir. Alors, Jean Alouche avait déjà repéré je crois qu'il appelle ça paradoxe du maître, dans la Grèce antique, le paradoxe du maître qui désire. C'est-à-dire que le maître, dans la Grèce antique, qui désire, se retrouve, au fond, destitué, d'une certaine façon, de sa maîtrise. Voilà. Bon, je vais m'arrêter là-dessus. Merci.
Merci beaucoup, Vincent. Merci de cette intervention qui était assez...
On n'entend pas bien, nous.
On n'entend pas.
Ah, excusez-moi. Là, c'est mieux ?
Oui.
Oui. Ah, oui, pardon. Donc, je disais merci beaucoup, Vincent, Sylvain, de cette intervention qui a été assez...
On n'entend pas.
On n'entend pas, c'est ça.
comment je vais faire?
Tu bouges pas.
Ah, c'est bon?
Oui, tu bouges plus.
Ah, c'est bon, là. D'accord, très bien. Bon, donc, je disais que votre intervention a été assez riche des possibilités de compréhension, de formulation de la situation de la jouissance. En fait, il y a plusieurs aspects que vous avez présentés. Vous entendez là?
Très bien. Non, pas bien.
Non. D'accord. Donc, je vais ouvrir à la discussion et puis je reviendrai après parce que j'avais des questions à poser, mais ça sera peut-être pour après. Donc, c'est ouvert.
Moi, je dirais juste un petit truc comme ça qui... ça me fait penser à ça de la façon, je dirais, très, très singulière dont Sylvain et Vincent ont traité cette question de la jouissance en psychanalyse, qui effectivement est d'un compliqué incroyable. Mais ça m'a fait penser à cette... je ne sais plus dans quoi j'ai lu ça, de Lacan, qui disait que... Finalement, eh ben, on est joué par la jouissance. Et à vous entendre, ça m'a fait penser à ça. Bon, c'est tout. C'est-à-dire que finalement, effectivement, personne, ni l'analysant, ni l'analyste, ne peut être maître dans une cure de cette jouissance, puisque de toutes les manières, quelle que soit la place qu'on occupe, d'analysant, d'analyste, eh ben, on est joué. C'est tout ce que je dirais. Voilà. Et puis une deuxième chose, ça c'est pour toi, Vincent, c'est que toutes ces questions, je crois, que tu as, qui tournent, en fait, comme tu dis, c'est-à-dire cette espèce de balade que tu as fait, cette promenade, je ne sais pas pourquoi, ça m'a fait penser à cette importance, justement, de ce séminaire encore, je dirais, où Lacan, justement, promeut cette question de la jouissance autre, supplémentaire. Et je dirais, ça, moi, ça m'a fait, quand je t'écoutais parler de tout ce que tu disais, de la pulsion, du masochisme, en fait, etc., toute cette espèce de, je dirais, oui, de voyage, de vagabondage, j'ai envie de dire, eh bien, j'ai eu l'impression que c'est peut-être ce que Lacan nous propose dans ce séminaire encore, avec cette jouissance autre, supplémentaire, ou l'autre jouissance. Et je pense que c'est pour ça, effectivement, qu'il donne cette expérience des mystiques, qui on sait à quel point, justement, de souffrance du corps, parce que c'était vraiment renoncer non seulement aux appétits, je dirais, du corps, mais en même temps, du statut social, de la situation, etc., pour arriver justement à cette autre jouissance. Voilà, c'est tout ce que je dirais. Ça fait penser à tout ça, ce que vous dites.
Oui. Alors, mais c'était une question. C'était justement une question que j'ai pas dite à la fin là.
Oui.
Que j'ai enlevée. C'est qu'est-ce qu'il en, par rapport à cette première thèse là, dont je parlais au début, jouissance flèche désir. Voilà. Mais qu'est-ce qu'il en est de la castration en fin d'analyse concernant la jouissance supplémentaire?
Exactement.
Puisqu'elle est supposément non marqué par la castration.
Exactement.
Donc, y a une question quand même.
Je pense que ça tournait autour de ça, ta question, et celle de Vincent aussi, de Sylvain aussi. Sylvain, il me semble. Hein, voilà. Qu'est-ce qu'il en est en fin d'analyse de cette jouissance supplémentaire pour autrui? Je trouve que c'est une bonne question. Bon, ben merci. Je me tais.
Moi, ce qui m'amuse dans le fait qu'on travaille comme ça à distance, j'ai envie de vous interroger tous les deux sur la question de la jouissance. C'est-à-dire que le fait que ça passe par l'écran, cette question-là, et qu'on ne soit pas en corps à corps, je pense qu'il y a quelque chose qui est à distance de cette question. C'est-à-dire que il me manque une dimension là. C'est peut-être celle du corps. Je ne sais pas. Donc j'avais envie de vous interroger là-dessus. C'est-à-dire que le fait qu'on travaille cette question, ça m'a mis beaucoup à distance, parce que j'ai beaucoup apprécié vos deux exposés, mais j'ai du mal à y trouver l'articulation, ou comment vous, au sens de réduire, du côté du séminaire encore, par rapport à cette question. Je sais que c'était tout votre exposé, mais essayez de le serrer un peu plus. En plus, vous êtes tous les deux ensemble, vous êtes les deux seuls corps à corps.
Ben c'est vrai que tu n'as pas, du coup, avec les écrans, tu n'as pas fait l'expérience de l'état de nos corps.
Un petit peu, j'ai vu quand tu
peux. Mais l'anxiété, tu vois, les feuilles qui sont mélangées, les bouquins, tout ça. Tu n'as pas vu cette espèce de...
Tous les cafés.
Sylvain n'a pas mangé depuis deux jours. Enfin bon. Voilà, à part ça, qu'est-ce que je peux te répondre, moi, sur le séminaire encore? C'est quand même, ça vient de là, mais
oui.
C'est vrai que j'étais obligé, moi en tout cas, pour ma part, j'ai été obligé de passer par beaucoup d'autres lectures.
Oui.
Parce que c'est un séminaire, voilà, je sais pas, ça m'a donné la nécessité d'aller lire beaucoup d'autres choses, tout en restant accroché à cette question de la jouissance, mais je n'ai pas trouvé dans le séminaire lui-même, peut-être, alors c'est ça, dans le séminaire lui-même, je n'ai pas trouvé pour moi la ressource de produire ma question et mon avancée, quoi. Il a fallu que j'aille voir ailleurs, quoi, d'autres...
Voilà. D'accord.
Je ne sais pas comment dire autrement.
Ouais, c'est pas mal.
merci. Mais un 12, c'est ça?
12-5.
Moi, j'avais une question à vous poser. J'espère qu'il n'y a pas trop de bruit, là, parce qu'il y a beaucoup de bruit dans l'appartement au-dessus de moi. Je ne sais pas. Ça gêne pas trop. Est-ce que je me trompe, ou je crois que c'est Vincent qui a parlé ça, du montage de la pulsion? Et alors, à un autre moment donné, tu as parlé de la sonde de... Qu'est-ce qui se détruisait, qu'il fallait, enfin, pour créer du nouveau, qu'il y avait nécessité de la libido, nécessité de détruire quelque chose pour que quelque chose de nouveau puisse surgir. Et je me demandais si peut-être opportun de parler de montage et démontage de la pulsion, de quelque chose de cet ordre-là qui pourrait se jouer dans cette affaire, mais je trouve intéressant là ce que vous apportez de la place du corps dans tout ça. Mais alors, est-ce que c'est seulement est-ce qu'on doit réduire le sexuel du corps au sexuel, le rapport sexuel, ou est-ce que ce sexuel peut consister aussi dans le sexuel du corps à différents niveaux? Et donc, peut-être intéresser aussi dans ce montage de la pulsion d'autres zones du corps. Enfin, je pense par exemple à l'ouïe, pour par exemple quelqu'un qui ferait un instrument de musique, la partie du corps intéressée. C'est-à-dire, qu'est-ce qui, dans cette question, chez un sujet qui va vers le nouveau, qu'est-ce qui pourrait être mis en œuvre?
Moi, je suis parti de la question du, disons, sexuel au sens un peu réduit, parce que c'est comme ça qu'il commence son séminaire, Lacan. Et puis, c'est vrai que c'est la question qui m'a comme ça intéressé, mais je suis d'accord avec toi que ça peut être tout à fait, ça peut se jouer autrement, cette histoire du, je sais pas si c'est la, moi, le mot que j'avais utilisé, c'était mutatif, enfin, la dimension un peu mutative.
C'est ça, quoi, mutatif. Mais y compris après, par rapport au sexuel ensuite, c'est-à-dire que, si le corps est revisité, dans ces différentes, dans cette danse, je crois qu'à un moment donné, il parle de danse des objets.
Oui.
Des objets A. Alors peut-être que quelque chose peut apporter cette mutation, cette façon.
Oui.
Y compris dans le rapport sexuel.
Et la danse des objets, alors je sais pas si c'est, mais ça rejoint la connexion des objets, ça rejoint la question de l'inter, enfin de la modalité aussi. Darian Leader, il a tout un chapitre là-dessus, c'est même des, c'est même, ça des même des,
hein. L'auteur que tu as cité tout à l'heure.
Oui, c'est ça, celui-là, Darian Leader. Et il y a même des, je veux dire, des non-lacaniens qui ont beaucoup travaillé sur la question de la, l'intermodalité entre les pulsions, de beaucoup de choses comme ça intéressantes, hein. Et ça, je crois que c'est des modifications, dans la cure, de ce qu'on, je sais pas, l'économie libidinale, si on veut dire, et qui me semble essentiel, quoi. Enfin, en tout cas, moi, en tout cas, il me semble dans ma pratique d'analysant ou d'analyste, quand j'entends des choses de ce côté-là, je pense que là, on est dans, dans l'analyse, quoi. C'est pas...
Tu nous donneras les références, Cécile, Vincent, ou après?
Oui. Attends. Je sais pas si ça se voit, ou si c'est à l'envers.
Je vois pas.
C'est à l'envers,
ou pas? C'est l'endroit, la jouissance répand de derrière.
Voilà. Pas à l'envers de la psychanalyse. Merci.
Je vais parler de plaisir aussi, hein. J'ai apprécié cette ouverture, oui. Cette distinction sur cette idée.
Oui. La libido aussi, qui a différentes couleurs. Oui. C'est intéressant.
Et le terme, c'était subjectification, c'est ça?
Oui. Pierre Bruno, dans son livre là, oppose libido et jouissance.
Oui.
C'est voilà, c'est un des. Alors, il marche beaucoup par opposition. Il marche beaucoup par. Chose comme ça, un peu binaire, qui est. Voilà. Alors, sur le. Isabelle, Thomas, tu demandais le démontage. Je ne sais pas quoi te dire, mais sur le montage, justement, dans le bouquin de Bruno, il rappelle la citation de Lacan qui dit que la pulsion, le montage d'option, c'est une dynamo branchée sur une prise de gaz. Et il dit que. Et la suite de la définition, donc c'est une dynamo branchée sur une prise de gaz, une plume de paon en sort, et ensuite elle vient chatouiller le ventre d'une jolie femme qui est là pour la beauté de la chose. Donc il y a un truc tout à fait surréaliste quand même dans,
c'est magnifique.
Dans ce montage, quoi.
C'est magnifique,
Moi j'ai trouvé très intéressant le fait de nous amener vers cette question de la jouissance. Et c'est vrai de montrer combien l'emploi de ce mot jouissance est compliqué, comme d'ailleurs peut-être ce terme qui déjà est lui-même entre plaisir, signifiant, corps, érotisme, symptôme, et que tout ça fait que c'est un espèce de à la fois de mot valise et à la fois c'est un bateau, en fait, de lacanien. Et que c'est très difficile à employer, et en même temps, ça recouvre énormément de choses dans la psychanalyse, pour Freud à un moment, Lacan le reprend, la manière dont c'est pris plus tard, dont ça a été finalement galvaudé, mais aussi travaillé dans différents sens. Je trouve que c'est dans ce que disait Sylvain, il mettait la jouissance opposée au désir, quoi, comme si ça s'opposait au désir. Et comme si quelque chose pouvait aller de l'un à l'autre. Et du coup, c'est plus du côté du signifiant que ça s'entend. Et c'est assez différent du symptôme, où il y a quelque chose de beaucoup plus réel, du côté du réel. Donc peut-être, vous pourriez en dire un peu plus là-dessus. Je ne sais pas si c'est une vraie question. Mais ça s'articule à la pulsion. Et c'est là que je trouve intéressant qu'il y a cette dimension d'écho dans le corps. On est dans un point de jonction qui permet un peu de penser cette question de la jouissance, qui est quand même un mot difficile, hein. Et il y avait aussi une autre chose à laquelle je pensais, c'est qu'on avait travaillé quand on était en Angleterre
avec le, peut-être le livre de Darian Nider, mais en tout cas avec la question de la traduction. Et c'est amusant que la traduction du mot jouissance en anglais, qui posait beaucoup de problèmes aux Anglais, et bon, je dis pas comme par hasard, mais c'est Darian Nider qui écrit un livre sur la jouissance. Quel est le titre en anglais alors du coup? Quel est
Enjoyment, really.
Hein?
Enjoyment, really.
Ah oui.
Le titre en anglais c'est The Jouissance, really,
really.
Voilà le titre du livre. J'ai parlé avec la traductrice du livre, Annalee Bobissi, qui est marseillaise. Et donc, moi, je voudrais un peu intervenir, juste, enfin, bon, on n'a pas beaucoup de temps, mais pour signaler un article de Christian Fierens,
oui.
Qui est un article qui est inclus dans une journée qui avait eu lieu sur Pierre Bruno, sur le livre de Pierre Bruno, et qui parle du principe de jouissance, et il décrit la jouissance comme le principe vif de la cure analytique.
Oui.
Il dit que elle n'est jamais réalisée, elle n'a pas de substance, elle n'a aucune essence, mais surtout, elle détermine toute la pratique psychanalytique, ou plus exactement, elle détermine le cours et la cause du processus analytique. Et il met en rapport essentiellement la jouissance avec la voix, en basant sur la citation de Lacan que la jouissance, c'est le défaut dans la pureté du non-être. Ce qui vaut s'y faire, ce qui veut aussi faire dans la pureté du non-être, moi la jouissance. Voilà, il prend son départ de là et il dit que toute la suite de Lacan, les lacaniens vise à mettre à plat le concept de jouissance, mais que en fait lui pense qu'il faudrait remettre en place le principe vivifiant de la jouissance.
Enfin, oui.
Je prétends pas avoir tout compris, mais bon, je vous le cite.
Merci.
C'est un petit peu ce qu'amène Darian Nider, moi, il me semble, justement.
C'est quoi le titre de l'article?
Le titre de l'article, c'est... Attends, je vais te le retrouver.
On peut l'avoir où, Paul?
Tu l'as sur Internet. Je l'ai eu sur... Le principe du jouissance, c'est fait partie de Critique de la jouissance, série de conférences débats coordonnées par Pierre Bruno.
D'accord.
Le 9 janvier 2021. Voilà.
D'accord.
Très intéressant cet article de Fierens.
Oui.
Qui me parle beaucoup tout en ne m'éclairant pas beaucoup sur la notion de jouissance qui est effectivement un concept qui m'échappe beaucoup sur le plan clinique surtout. Voilà. C'est tout ce que je voulais dire. Oui, j'ajoute que quelque chose de ce que disait Vincent sur la question de la jouissance quand même s'accorde avec le livre de Nassif dont nous avons parlé sur le rapport entre cette question de la jouissance et Bataille et le fait que effectivement avec ce livre sur Bataille quelque chose du principe de la jouissance se remet en place. En plus, la question de ce que disait Vincent sur le sexe du maître qui est l'anus rejoint toute la place importante que Bataille accorde à cette partie du corps, puisqu'il a même intitulé un livre L'anus solaire. Voilà, c'est ce que je voulais dire.
Il fait beau d'ailleurs.
Ah, c'est bon. Bravo, Vincent.
Par rapport à Sylvain, là, j'aimerais qu'il revienne un peu sur la question de la jouissance, de la résistance à la parole et l'articulation avec la jouissance du symptôme. Parce que la jouissance du symptôme pourrait être aussi donc quelque chose de la résistance par rapport à la parole. Question à Sylvain.
J'ai l'impression que ça l'est certainement. La question, c'est la place de cela dans la cure. Mais c'est ça qui m'interrogeait. Que ça le soit, ça, certainement, mais qu'est-ce qu'on fait là-dessus? C'est-à-dire, est-ce que tu peux juste reformuler, parce que j'ai pas hyper bien entendu, c'était assez...
J'articulais la jouissance résistance à la parole, tu vois, mm-hmm. avec l'autre point, jouissance du symptôme. Donc, quelle est la résistance du symptôme, autrement?
La jouissance du symptôme. Tu me poses une colle, mais il semble que juste en tout cas moi ce que j'avais cru saisir. C'est que précisément la jouissance du symptôme, elle se situe dans sa répétition finalement. Et est-ce qu'il y aurait pas un rapport un petit peu à mettre avec le fait de parler en permanence, c'est-à-dire de répéter en permanence dans la parole ce dont on souffre symptomatiquement. Mais peut-être que j'ai pas très bien compris ta question, Pierre.
Non, mais je cherchais juste à articuler les deux points que tu avais soulevés dans ton exposé. Je le répète encore une fois. Quand tu pointes que la jouissance est une résistance à la parole, d'accord, ça t'est... Mm-hmm. Et après, encore, tu as dit, tu as été chercher la jouissance du symptôme. Donc, ce que j'essaie d'articuler, c'est on a le dénominateur commun qui est jouissance, et quelle résistance dans la jouissance du symptôme. C'est tout, il n'y a pas de piège, enfin, c'était juste...
Non, mais je ne le prends pas comme tel, j'essaye de réfléchir un petit peu.
J'essayais de tes apports, de ton questionnement, et j'essayais d'en entendre quelque chose, quoi, tout simplement.
Non, je comprends bien, mais justement, j'essaye de saisir un petit peu ce rapport-là.
Est-ce que vous m'entendez?
Oui.
Oui. Oui. Alors, je vais juste rajouter quelque chose à la question de Pierre, parce que j'avais pensé à ça aussi concernant la résistance à la parole. Je me suis demandé à quelle parole, à quel type de parole, et si cette résistance, on pouvait la considérer aussi comme la résistance à la cure. Voilà, c'est ces deux points que j'aimerais.
Oui, pour soutenir ce qu'elle vient de dire, troisième point, il n'y a de résistance que celle de l'analyste.
Voilà. Ah oui, c'est la question de la
ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup de résistance.
C'est parce qu'il y a trop de jouissance, donc on résiste.
C'est des points... Je n'ai pas trop quoi en dire, là, comme ça.
C'est ça. Je voudrais poser une question ou j'aurais peut-être besoin de traduction. Je vous remercie beaucoup, Sylvain et Vincent, pour gâcher en plus la notion des jouissances. Ma première question. Est-ce qu'on peut dire qu'il ne s'agit pas d'un concept, mais d'une notion, plutôt, quand on parle de jouissance?
Après entendu vos exposés, j'ai commencé à m'interroger sérieusement sur le fait qu'il n'est pas un critère. Nonobstant, even though, on parle de l'analyse, on parle du champ lacanien comme du champ de la jouissance. Ça nous pose un problème. Et vos exposés on met le problème à l'horizon de la pulsion, de la satisfaction et du plaisir. Je vous interroge si vous pouvez développer un peu plus cette tessiture assez problématique et complexe d'expliquer. Je peux vous répéter en portugais, et si ça peut me traduire, parce que je ne crois pas que j'étais très claire.
Vous avez compris?
Alors, on peut faire l'essai de la traduction, juste pour voir.
D'accord.
Et pour entendre, plutôt.
Ah, c'est ça. Eu acho que eles puseram a noção de gozo como noção e não como conceito. Essa é a primeira coisa.
Oui, ça j'ai compris.
Ouais, c'est la jouissance
en fonction de la concept. Et nesse processo de tornar mais bagunçado.
Et dans ce processus de
gâcher.
De comment dire, de confondre.
De rendre plus
moins
complexe, plus confus.
C'est gâcher le verbe en
fait. Alors, gâcher, c'est disperdiçoir.
Mettre un désordre.
Voilà.
Et ao pôr em desordem, se complexificou a noção de jouissance ainda mais. No horizonte da pulsão, da satisfação e do prazer. Eu gostaria de saber se eles conseguem destrinchar, separar um pouco mais essas quatro noções.
Mise en abîme, qu'on peut avoir dans l'horizon la question de. Du plaisir, la jouissance, quoi d'autre déjà, Anna? Jouissance.
La pulsion, à l'horizon de la pulsion.
À l'horizon de la pulsion.
Et du plaisir. Si on peut essayer ces quatre points.
Alors, je ne sais pas, moi je peux répondre à ma façon. Notion ou concept, je ne sais pas, mais en tout cas, je pense que la jouissance, ça ne veut pas dire grand-chose. C'est-à-dire, même Lacan parlait des jouissances, les jouissances. C'est-à-dire que le terme est devenu tellement adjectivé, on rajoute toujours quelque chose au terme jouissance, que finalement, quand on dit la jouissance, je pense que c'est devenu beaucoup trop large et enfin... C'est plus un mot qui fait qu'on se reconnaît entre lacaniens que vraiment quelque chose d'opératoire, à mon sens. En tout cas, ça demande à chaque fois à être défini plus précisément et notamment adjectivé. Ça, c'était pour un point. Et après, alors après, c'est sur mettre en désordre. Ben, je sais pas. Alors, j'ai peut-être pas bien compris, mais en tout cas. Je pense que c'est sur ces questions-là, il faut avancer avec une... En tout cas, moi, j'avance, pour l'instant, avec une batterie de termes. Effectivement, c'est ce que j'ai essayé de dire un peu au début. Plaisir, désir, douleur, déplaisir, satisfaction, pulsion. C'est-à-dire, ça va avec, quoi. Enfin, c'est pas... Même dans le séminaire, hein, encore, je trouve que les formulations de Lacan sont pas... sont pas toujours les mêmes, quoi. Donc, je sais pas très bien comment le dire. Ça avance comme une espèce de cavalerie pour moi. Une espèce de, tu vois, Voilà, je sais pas trop, je peux pas trop répondre plus que ça.
Oui, moi je suis assez d'accord aussi sur le fait qu'on peut pas tout à fait en le situer comme concept. Par contre, et c'est vrai qu'il y a, il me semble quand même qu'il y a quelque chose qui s'opère assez particulièrement par rapport à la jouissance dans le séminaire encore, et qui me paraît quand même assez fondamental de ne pas le situer que du côté de l'objet, mais de la situer, pardon, vraiment dans le langage. Et il y a cette et même d'en faire la texture de la langue. Et ça, ça me paraît quand même être quelque chose qui participe en fait aussi d'une certaine évolution, parce qu'il y a quand même des périodes dans l'élaboration lacanienne, d'un certain détachement, on va dire, du symbolique pour aller vers le réel, pour aller du côté du réel. Y a cette phrase, en fait, que j'ai trouvée de Maya de Villetard, que je trouve assez, assez belle concernant la jouissance. Elle dit « Ce qu'il en est de la jouissance n'est en aucune façon réductible à un naturalisme. Il s'agit au contraire du point où le vivant compose avec le langage. »
Ouais, c'est bien, c'est bon. C'est ça, c'est juste.
Voilà. Alors, il n'y a pas d'unité de la jouissance. Enfin, on entend bien, hein, il y a quand même une élaboration qui est assez longue, donc on ne va pas en faire la synthèse, mais il y a quand même ce point-là amené, me semble-t-il, avec le séminaire encore, qui supplante un peu, pour moi, en tout cas dans ma pratique, on va dire la jouissance du symptôme, par exemple, qui vient un petit peu indiquer autrement comment... donc il ne s'agit pas de la mettre à plat, comme disait Vincent, la jouissance, mais comment elle peut garder son caractère vif dans la cure. Voilà, je dirais ça. Et c'est vrai que ça passe pour moi par la pulsion. Sans...
Bien sûr.
Il y a Dominique qui voulait parler. Alors, Dominique, je peux ouvrir ton micro, sinon on ne t'entend pas.
On ne t'entend pas, Dominique.
C'est compliqué. Ben, je suis à faune chronique. Bon, je dirais d'abord un premier point. Lacan, c'est compliqué et souvent contradictoire. Alors, si on se décourage devant la complexité de Lacan, on arrête de lire Lacan. Et on lit peut-être, pourquoi pas, les post-freudiens ou Freud. Je ne pense pas qu'on puisse reculer devant la complexité. Bon. D'autre part, je dirais que, pour comprendre la jouissance, peut-être repartir du terme même que vient de jouissance. Jouissance, c'est un terme juridique. Hein, qui veut dire, on jouit d'un bien. Hein, on revient à la notion de bien. Et la jouissance, d'une certaine façon, s'oppose à la satisfaction. C'est pour ça qu'elle est, si je puis dire, inflationniste. Pour comprendre ce que c'est que la jouissance, ne pas comprendre, mais avoir un éclairage, penchez-vous sur la jouissance du riche, hein, sur la psychologie du riche. Les riches accumulent les biens dans un but jouir, toujours plus jouir. Si vous avez une maison, vous jouissez de votre maison. Mais on sait bien qu'il suffit de regarder la maison du voisin pour tomber dans l'insatisfaction. Alors, les riches accumulent les jouissances. On se demande, ils ont de quoi vivre les plus riches. Le plus riche, d'ailleurs, est français actuellement, comme tout le souverain. Bon, ils accumulent les biens, mais ils sont tout à fait en rade par rapport à la satisfaction. La preuve, c'est qu'ils accumulent. Alors, reprenons Lacan, la jouissance, c'est ce qui ne sert à rien. Là aussi, si on a ce point de mire, si on a cette phrase, ce qui ne sert à rien, ce qui rejoint complètement ce que citait Paul tout à l'heure, sur ce cri, ce hurlement, comme ça, hein, par rapport à l'infini. C'est donc, voilà, c'est quelques mots et surtout penser toujours jouissance comme d'abord dans son acceptation juridique. Et à partir de là, effectivement, ça peut partir dans beaucoup de sens. C'est tout.
Il y a encore quelqu'un d'autre qui voudrait dire quelque chose, un commentaire ou une question.
Oui, c'est plus... moi, j'aimerais bien demander à Sylvain et puis à Vincent, compte tenu de la façon dont ils nous ont présenté la chose, est-ce que vous envisagez de poursuivre d'une certaine façon par rapport à des points que vous avez soulevés, parce que c'est vrai que c'était quelque chose de très riche, avec vraiment un éventail formidable, je dirais, de termes ou de notions pour la psychanalyse qui sont essentielles pour nous. Est-ce que, c'est juste comme ça, parce que ça, c'est quand même un travail important que vous avez fait, avec plein de questions qui ont été les vôtres. Est-ce que, est-ce qu'on peut avoir la chance d'une suite, j'ai envie de dire. Mais bon, c'est juste comme ça. On ne sait pas.
Ouais, là, comme ça, c'est pour le moment, je ne sais pas, il faut répondre. Après que ce qui se dit là est effet de travail, c'est à voir, je pense.
Oui, non, c'est juste comme ça.
Je pense, oui.
Mais c'est sûr qu'il y a des questions qui sont, qui sont laissées de côté et qui continuent à... Moi, la question de la perversion, par exemple, je pense, est très intéressante sur ce point-là.
Oui.
Y compris sur la fin de l'analyse, y compris sur la licence. Enfin,
oui.
Et voilà, donc ça reste à travailler. Mais de là à m'engager sur un épisode 2, pas pour le moment. Là,
ça a eu cet effet de produire un désir de travailler quoi, certaines questions. Ouais. Que peut-être vous n'envisagiez pas de travailler avant de vous être mis à cette lecture, je dirais, encore.
Oui, oui. Voilà. Après, la question serait sous quelle forme, mais ouais.
Oui, voilà, c'est ça, bien sûr, bien évidemment.
Il y a un écrit qu'on pourrait mettre sur le site qui est différent de l'enregistrement, enfin.
Par exemple, qui est quelque chose qui est un cas.
J'arrive pas à écrire en ce moment, mais bon, peut-être, hein.
Oui, mais de toute façon, ça sera mis en audio sur le site, hein, de toutes les façons.
Voilà. Pour ma part, c'est vrai qu'il y a quelque chose que je trouve assez intéressant, qui est ce passage du sujet à l'être parlant, par l'être, et ça par rapport à la jouissance. Ça, c'est quand même un point qui, moi...
Je pense que c'est le nerf de, encore un peu. Enfin, petit peu, c'est comme ça qu'en tout cas, moi, j'avais lu encore.
Et Dominique et toi, vous aviez présenté plutôt... d'où provenait encore, ou en tout cas les premiers pas de Lacan pour arriver sur encore, et en même temps encore est lui-même un pas vers cette notion de par-l'être, et c'est ça que je trouve.
Tout à fait, c'est comme un... Oui, c'est vrai, c'est comme un passage, une passe, on va dire.
C'est plus la jouissance du fantasme exclusivement, quoi.
Non, c'est vraiment autre chose.
En même temps que ça ne l'évince pas. C'est ça qui est quand même important.
On peut conclure là? C'est assez?
C'est assez.
Bon, écoutez, merci.
Eh bien, moi je dirais encore.
Ou toujours pas.
Parce que nous avons encore une réunion.
Ouais, pour ceux qui sont membres d'encore,
ils sont
membres
encore.
Car merci, ça nous a mis au travail, quoi. Enfin, voilà.
Merci beaucoup.
Au revoir, Anne, à bientôt.
Merci, au revoir.
Merci beaucoup, au revoir.
Merci.
Merci.
Au revoir.
Au revoir, merci.